On adore faire des podcasts pour vous. Comme vous le savez, par contre, mon vrai travail dans la vie, c'est d'être dirigeant d'un cabinet de services financiers. Si vous voulez visiter notre site et obtenir des services financiers, des conseils par rapport aux investissements, les REER, les CELI, faire des projections de retraite, éventuellement regarder les régimes d'épargne études des enfants, les assurances vie, assurances invalidité. Vraiment, on a une gamme de services qu'on peut vous offrir. Dirigez-vous vers votreconseiller.net. Vous allez pouvoir trouver nos coordonnées et éventuellement obtenir nos services. Merci.
Ben Vincent, on commence l'épisode des questions-réponses en duo parce que Yann est en demande. Hein, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui arrive hein, quand t'as une grande gueule. Tout le monde veut t'entendre parler. Fait que il va nous rejoindre, là, soyez pas inquiets. Il va être là, il va nous rejoindre dans à peu près une vingtaine de minutes. Ça nous laisse le temps d'aborder pas mal les questions que les gens ont envoyées. On a retenu toutes celles qu'on n'avait pas répondu la dernière fois. Question d'être juste pour tout le monde qui a posé des questions. C'est pas parce qu'on fait nécessairement le tri, c'est que des fois, t'en prends une, puis l'autre que tu vois a l'air de fitter un peu dans le même sujet, t'es mis ensemble. Donc, on va essayer d'y répondre un peu plus, de manière un peu plus exhaustive. Puis là, dans le fond, Vincent, t'avais quelque chose à dire là, avant qu'on commence. Là.
Écoute, c'est ce que j'avais dit dans le live des élections. N'allez pas voter si vous pensez que vous allez changer le résultat. Votre vote n'a aucun effet sur le résultat final de l'élection. Vous ne changerez absolument rien, même dans votre circonscription, encore moins au niveau national. Votre vote ne compte pas. À toute fin pratique, votez sur vos principes, votez sur ce que vous croyez fondamentalement. C'est beaucoup plus pertinent que de voter en pensant que vous allez changer le résultat. Les chances qu'un vote change le résultat d'une élection est 1 sur... presque plusieurs dizaines de millions dans le chiffre du dénominateur. Donc, vous n'avez aucune chance d'affecter le résultat. Donc, gâtez-vous.
Oui, ben je pense qu'il y a, comme beaucoup de gens qui pensent que c'est comme un... En fait, t'es comme obligé un peu là, de faire ça. Là, un genre de... La fameuse idée du devoir de citoyen.
Je ne suis pas d'accord avec ça, par contre. Je ne pense pas que tu as un devoir... Parce qu'il y a quelque chose ici, c'est que tu participes à un processus. Si le processus était injuste, okay, on va y aller dans l'extrême, là, ça arrive des démocraties qui font des choses absolument atroces. C'est beaucoup plus rare que des régimes non démocratiques qui font des choses atroces. Mais de dire que tu dois voter, que tu as un devoir à ta communauté, non. Des fois, tu as le droit de refuser, de dire que tu trouves que c'est inacceptable de participer à ce processus-là. Donc, disons par exemple que les deux partis, on regarde dans l'extrême comme aux États-Unis, où les deux partis votent pour des partis interventionnistes en affaires étrangères qui incluent d'utiliser des drones pour bombarder des mariages où est-ce qu'il y a des terroristes dans un pays X ou Y. J'ai pas envie de sanctionner ça. Donc, si les deux choix, c'est la même chose, je voterai pas pour deux fois la même chose.
Ah oh oui, absolument. Ouais, puis en même temps aussi, le fait de ne pas voter est une forme de vote, là, d'une certaine manière, parce que comme on a, puis on vient de perdre Vincent pendant 2 secondes, mais je continue pendant ce temps-là, comme on a un financement public des partis politiques, le problème, c'est le suivant, c'est que si tu veux pas, si il n'y a rien qui te rejoint, ben, si tu annules ton vote ou si tu vas puis tu coches toutes les cases, ben, il y a une partie du cash qui va être redistribuée un peu à tout le monde là-dedans. Là. À cause d'un mécanisme de financement public. C'est ça qui arrive là, à ce niveau-là.
Bien, il y a ça, mais il y a aussi le fait que quand je dis que ton vote a vraiment très peu d'influence, il y a aussi le fait que parce qu'il n'y a aucune influence sur le résultat final, ça fait que les gens, en fait, la plupart des gens, quand ils votent, ils n'ont pas une compréhension. Il y a beaucoup de croyances erronées qui motivent des votes. De telle sorte que souvent, quand tu regardes les résultats d'élection, c'est rare que le comportement des gens... En fait, c'est pour ça que tu peux avoir des fois des résultats dans lesquels les gens votent pour des cas extrêmes parce que le vote est basé sur, par exemple, des fausses croyances. Ça peut être que tu penses que tous les immigrants volent des emplois, donc il faut qu'on vote pour un candidat anti-immigration, mais quand on regarde les faits, c'est pas ça. Le problème, c'est que quand tu votes, comme il n'y a aucun bénéfice à voter, il n'y a aussi aucun coût à voter. Donc, il n'y a aucun bénéfice à corriger des croyances erronées, surtout si ces croyances-là te permettent de faire partie d'une tribu politique au-delà d'un autre. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas le culte de la démocratie que les gens ont. Ce que j'ai, c'est le culte de la démocratie libérale, dans le sens que le vote est uniquement l'un des outils qu'on a pour contraindre les politiciens. Mais c'est un outil qui doit complémenter d'autres outils, que ce soit les contrebalanciers de pouvoir, que ce soit la Cour suprême, que ce soit le fédéralisme, la migration des gens entre les districts. Ce qui fait qu'une démocratie est vraiment robuste, c'est pas juste l'acte de voter, c'est l'acte de citoyenneté, en fait, dans lequel, d'une manière ou d'une autre, tu participes à contraindre le gouvernement au minimum à faire les choses qui sont l'essentiel de l'État au lieu de ce que le politicien est dans son avantage à lui de faire. Là, ça, c'est une autre discussion.
Oh, oui, absolument. Ouais, j'y vais avec une première question, mais je nommerai pas les gens là, qui ont posé les questions, d'abord parce que je les ai pas toujours notées, puis deuxièmement parce que c'est pas tout le monde qui veut que son nom soit donné, des fois en rapport avec ce qui a été dit. Il y a une première question qui est posée, puis ça fait un peu lien avec la politique, c'est qu'il y a une tendance, en fait, très populiste, moi je trouve que c'est une forme de populisme, là, de dire que, bon, ben en gros, les gens qui ont plus d'argent, ils font pas leur part dans la société, ils payent rien, puis ils font rien. Puis, dans le fond, ce que ça fait, c'est ben, ce qu'il faudrait faire, c'est aller chercher l'argent où elle se trouve, donc dans des trucs comme des paradis fiscaux. Puis là, ben, il y a un auditeur qui pose, il dit, est-ce que le gouvernement épargnerait vraiment des milliards ou récupérerait beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a comme beaucoup de spéculation là-dessus.
Non, il y a vraiment les paradis fiscaux. En fait, la manière de le voir, c'est que la richesse des gens les plus riches, on prend, disons, le top 1% des contribuables les plus riches, et on prend tout ce qu'ils ont accumulé. Donc ça, c'est les gens doivent faire aussi une distinction entre un revenu qui est un flot et une richesse qui est un stock. Donc, l'analogie dans la tête des gens, ça devrait être comme une baignoire. Le revenu, c'est l'eau que tu ajoutes. Ta richesse, c'est l'eau qui est dans le bain. À n'importe quel moment, qui est le résultat de toutes les choses que tu as accumulées dans le passé. Si on devait prendre toute la richesse du top 1%, on ne serait pas capable de couvrir le budget dans n'importe quel pays, on ne serait pas capable de couvrir le budget de n'importe quel gouvernement occidental avec l'entièreté de l'eau dans le bain. Donc, si tu prenais 100% de la richesse du top 1%, tu ne serais pas capable de couvrir une année de dépenses publiques. Si tu prends toute leur richesse, tu pourrais peut-être fermer le déficit, mais tu peux juste le faire une fois. Si tu prends tout leur revenu, donc on va dans le scénario extrême dans lequel tu taxes 100% du revenu, donc 100% de l'eau que tu ajoutes dans la baignoire, tu ne fermes même pas le déficit cette année. En fait, tu ne fermes même pas le déficit dans les années de déficit pré-pandémique. Donc, pour moi, les gens qui disent on va équilibrer les finances publiques en taxant les riches ou les riches doivent faire leur part, c'est vraiment, ça, c'est du populisme aussi crasse que celui que les gens qui disent ça puis qui accusent, disons, Éric Duhaime ou Maxime Bernier de faire du populisme, ce que je pense qu'ils font, parce qu'on en a déjà parlé de ce que j'ai dit, de la politique en général, mais ceux qui accusent de populisme, ces gens-là, sont bien hypocrites parce qu'eux-mêmes font du populisme économique en prétendant que les riches peuvent... ont des richesses tellement gigantesques cachées puis que c'est juste une question de volonté politique. Non, c'est que le citron n'a pas autant de jus que ce que les gens croient. Donc, même le scénario extrême où tu taxes 100% de tout le flux ou le stock ne change absolument rien à la situation, bon, pas rien, mais très peu à la situation financière des gouvernements. Donc, tu ne peux pas financer autant de projets gouvernementaux avec ça. C'est vraiment un mythe qui devrait vraiment disparaître. Puis en fait,
ça ne peut pas disparaître, Vincent, parce que les politiciens ont tout intérêt à nourrir ça. Parce qu'écoute, tu proposes aux gens des choses en leur disant que c'est quelqu'un d'autre qui va payer pour ça, puis que ça perd tous les gens qui écoutent. Il n'y a personne qui est concerné. Mais tout le monde veut. Tu sais, je veux dire, c'est comme si je te dis, hein, t'aimerais-tu ça avoir de la tarte aux pommes? Ça ne coûtera rien. Je vais aller t'emporter à tous les jours. Ben oui, ouais, j'aime ça, la tarte aux pommes. Je vais en prendre. Ben là, c'est ça en réalité. C'est que aimeriez-vous ça avoir des dents gratuites payées par le gouvernement? Ben ouais, là. Mais là, ça va coûter combien? Non, non, ça ne coûtera rien. On va prendre l'argent des gens qui n'en donnent pas assez. Vous, on vous en prendra pas plus.
Ben. Tu te dis que ça coûte rien, mais c'est pas vrai. Ça coûte quelque chose aux gens parce que si, disons...
Non, non, mais je veux dire, c'est ce que le politicien va leur dire.
Oui, je comprends.
Va leur dire, non, non. On...
Mais moi, ce que j'essaie de dire, c'est plus comme la partie que les gens ne devraient même pas tomber coupables, ils ne devraient pas tomber dans le piège de ça parce que le politicien, au final, quand il va faire ça, il va altérer les incitations des gens qui pourraient devenir riches. Donc, si tu dis pourquoi je ferais cet investissement dans ma compagnie, pourquoi j'acquierrais ce diplôme-là, parce que tu sais, le top 1%, les gens pensent que le top 1%, c'est tous des banquiers, donc les banquiers, c'est méchant, mais mm-hmm. dans le top 1%, tu as des juges, donc des gens tu sais, qui ont investi le temps de devenir avocat. Tu as des médecins qui ont investi plusieurs années dans la formation pour produire des services médicaux, souvent qui ont fait des fellowships très, très longs pour acquérir une spécialité très pointu, donc dans le traitement, mm-hmm. par exemple, neurochirurgien. En fait, tu vas trouver aucun neurochirurgien qui n'est pas dans le top 1%. Tu vas avoir des ingénieurs, tu vas avoir des gens tu sais, qui produisent de la valeur pour la société. Si tu décourages l'accumulation soit du capital humain ou l'accumulation de capital physique qui est nécessaire pour produire des biens et services, tu pourrais techniquement appauvrir la personne que tu dis que tu lui offres le service gratuitement. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, le mythe devrait disparaître. Non seulement ça, mais quand tu regardes, tu fais ce qu'on appelle les net taxes. Donc, tu prends ce que les gens payent et ce qu'ils reçoivent en transfert. À peu près 100%, bon, pas à peu près, 100% des net taxes sont payées par le top 10%. En bas mm-hmm. du, en bas, donc, ce sont des contribuables nets, en bas du top 10%, les gens sont des récipients net, donc c'est-à-dire que la moyenne du bas 90%, ça ne dit pas grand-chose. Je veux dire, ce chiffre-là, je trouve qu'il est souvent exagéré, puis qu'il est utilisé à des fins qui ne sont pas super pertinentes. Mais ça devrait te montrer une idée que il n'y a pas autant de citron, il n'y a pas autant de jus dans le citron que ce que les gens disent. C'est vraiment un mythe qui devrait... Tu devrais l'amener derrière la ferme, derrière la grange, avec un shotgun puis une pelle. Tu tires le vieux cheval et tu l'enterres. Ça m'a mis shoot, shovel, shut up.
Absolument. Absolument. Il y a quelqu'un qui dit « Je rêve parfois que l'impôt ne soit plus déduit à la source, mais qu'on le paierait seulement au moment de faire ses impôts à la fin de chaque année. Dans le fond, je pourrais placer cet argent et en retirer des intérêts pendant tout le restant de l'année. » En gros, il veut savoir ce qu'on pense de ça. Ben, avant que tu répondes, moi, c'est vrai que l'impôt prélevé à la source, c'est quand même une idée géniale. Je veux dire, si les Romains avaient pu faire ça au lieu de partir à cheval avec les centurions pour aller collecter les Gaulois et toutes les places où ils avaient colonisé, ils seraient fait beaucoup moins chier. Parce que quand quelqu'un cogne chez vous, il dit hey, « j'aimerais ça que tu me donnes 500 $ c'est pourquoi? Ben, c'est pour payer là, les routes, puis le tramway, puis telle autre affaire qu'on veut faire. » C'est probablement plus difficile. C'est plus difficile à collecter.
Il n'y avait pas de tramway en Gaulle.
Non, c'est ça. Non, non, mais je veux dire dans le moment sais, présent. Là,
je sais, je te taquine. Je voulais juste être baveux. Mais en fait, tu as mis le doigt sur une des raisons pour laquelle ce qu'on appelle le withholding, la retenue à la source, est fait. C'est que ça réduit la résistance politique à l'impôt parce que les gens ne sont pas aussi conscients du coût de l'imposition sur le revenu. Mais ce qui est probablement plus sinueux, c'est comment est-ce que le gouvernement ne gagne pas. Parce que je ne pense pas que l'effet est si important que ça. Celui que je viens de décrire, il est là, mais il est vraiment petit en comparaison avec l'effet que le gouvernement a des revenus maintenant, dans l'immédiat. Ça, c'est vraiment important pour les gouvernants parce que c'est pas vrai que tes dépenses, tu les payes seulement à la fin de l'année fiscale. Non, tu les payes pendant toute l'année au complet. Donc, ce qui se passe, c'est que tu t'épargnes, un, de l'intérêt à payer. Mais techniquement, les gens disent « Ah, c'est super, techniquement, on n'aura pas à prêter de l'argent aux banques, à emprunter aux banques, donc de payer de devoir émettre des bons du trésor pour avoir des liquidités maintenant, blablabla, blablabla. » Mais ce qu'on réalise pas, c'est que le contribuable est en train de payer, lui, est en train de faire. Ce qui est, pas, ce qui est privé, c'est l'intérêt que le contribuable, lui, aurait pu avoir sur ce montant-là. Puis si, par exemple, tu surpayes ton impôt, tu remarqueras que jamais le gouvernement te rembourse ton surpaiement avec intérêt.
Donc, ce qui se passe,
c'est que le gouvernement, techniquement, fait le vol de l'intérêt avec ça, le vol de l'intérêt privé que la personne aurait pu gagner sur les surpaiements qui sont faits. C'est pour ça qu'il y a une réforme que je trouverais probablement que ce serait les plus efficaces sur la contrainte de dépenses publiques, c'est que tu dois repayer au moins le taux d'intérêt sur un bon du trésor aux contribuables qui ont surpayé. Comme ça, le gouvernement est obligé. Parce que tu sais, tu essaieras de demander combien tu dois en avance, surtout si tu es un travailleur autonome, d'identifier exactement les acomptes provisionnels qu'il faut que tu fasses. C'est carrément impossible. Puis non seulement ça, mais eux te disent qu'ils savent combien tu leur dois, mais quand tu leur demandes, ils vont dire, ben, figure it out.
Oui, c'est ça.
Si tu avais un mécanisme dans lequel, au minimum, tu as le taux de base du marché, qui est celui d'un bon du trésor, ça serait beaucoup plus juste. Donc, moi, je pense pas que la déduction à la source pourrait disparaître, mais en termes d'équité, en termes de justice fiscale, ça serait beaucoup plus important. Parce que ça fait beaucoup mal aux plus pauvres. C'est généralement, en fait, je suis sûr que si on testait empiriquement, on regardait qui paye, qui fait la proportion de gens qui font des surpaiements en proportion de leurs revenus, c'est plus important les surpaiements en proportion du revenu chez les plus pauvres que les surpaiements en proportion du revenu chez les plus riches. Et là, tu vois, dans ce cas-là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es techniquement en train de taxer régressivement les plus pauvres. Ceux qui pensent le contraire sont vraiment, je pense qu'ils font des erreurs de raisonnement économique assez de base.
Oui, puis tu sais, le même raisonnement s'applique aussi à tout ce qui est projet à très long terme où on envoie. Parce qu'en fait, ça revient à ce que tu disais à un moment donné. Tu te dis, ben, mettons, les gens, ils ne payent pas le réel coût de leur conviction ou encore le réel coût de leur opinion ou des choix qu'ils font. Ben, quand tu te dis, ben, moi, je suis pour ça que le gouvernement il fasse tel projet. Ben, il n'y a pas de facture qui t'est envoyée. Tu n'as pas un chèque à remplir de 550 $ que tu signes, tu envoies ça, je ne sais pas, à la Ville de Québec ou au gouvernement du Québec. Ben non, mais c'est prélevé comme ça. Puis à un moment donné, il y a une petite taxe qui est ajoutée sur une boisson gazeuse ou une petite taxe sur des taxes vertes quelque part. Donc, c'est un peu plus insidieux parce que tu ne le vois pas vraiment. Donc, tu ne te sens pas atteint par ça. Ou même, c'est encore pire quand c'est reporté à plus loin dans le temps. Parce que là, ben ouais, moi, je tu sais, en fait, la plupart des gens, quand tu parles du déficit public, en réalité, ils ont l'impression qu'ils ne payent pas ça. Donc, moi, ça ne me concerne pas. Moi, dans mon compte, j'ai de l'argent, puis j'en ai pas de dette. Tu sais, donc, comme ça ne te concerne pas, empiriquement, là, tu sais, concrètement, je prends pas 20 $ puis je le donne à quelqu'un, ben c'est comme si ça n'existe pas. Mais en réalité, ça existe, mais c'est insidieux. T'sais.
Oui, ben il y a aussi. Dans ce que tu dis, il y a aussi une partie que... Moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle les constitutions fiscales. L'idée que les gouvernements doivent un peu se contraindre à faire certaines choses. Puis souvent, ça me met un peu, des fois, parfois, en contre-faux avec mes collègues, en porte-à-faux avec mes collègues en économie. Parce qu'eux vont dire, de l'argent, c'est fongible, donc tu peux le déplacer entre n'importe quoi. Donc, ce que je t'avais de dire, c'est... Ils vont dire que c'est un peu ridicule, mais... Moi, je le vois comme une contrainte de plus, un autre garde-fou contre l'expansion de trop de politique dans nos vies. C'est que si tu dis, par exemple, les revenus de cette taxe-là vont être dédiés uniquement à la mission X, bien, ça crée une contrainte, mais aussi ça crée un fait que l'électeur va être informé de la mission pour laquelle ces dépenses vont faire. Et le politicien, c'est un peu, au minimum, attacher les mains à un certain degré.
Ouais.
Et dans le passé, tu avais des constitutions fiscales de ce genre-là. Tu en as encore aujourd'hui dans certains États américains, par exemple, des amendements constitutionnels au niveau des États sur le budget équilibré de manière structurelle. Tu auras des amendements sur, par exemple, que des agences réglementaires ont ce qu'on appelle des sunset clauses, des termes de crépuscule, donc éventuellement doivent disparaître. Ça, c'est des choses qui créent un environnement prévisible pour les gens. Et cette prévisibilité-là vient du fait que si on si tu m'as fait une promesse, au minimum, je peux maintenant l'évaluer et te punir si tu violes cette promesse-là. Donc, techniquement, c'est vrai que ça a l'effet peut-être petit, mais de dire, de savoir sur quoi une chose est dépensée, ou au minimum d'associer certaines formes de taxation à certaines missions de l'État, il y a une vertu à ça. Et la déduction à la source a éliminé cette vertu-là, parce que maintenant, on n'a plus d'identification. Et ça faisait, par exemple, il y a un gars dans l'histoire, Henry David Thoreau, qui était connu comme un grand auteur. Lui, il avait refusé de
faire de la prison pour ça.
Il avait refusé de payer ses impôts parce que c'était la guerre Mexican-American War, je ne sais pas comment le traduire en français, mais c'est une guerre dans les années 1840.
Oui, bien, grosso modo, entre le Texas et le Mexique, là.
Oui, puis les États-Unis et le Texas, fondamentalement. Mmh. Mais parce qu'à ce moment-là, le Texas était une république autonome, ce qu'il devrait être encore aujourd'hui, je pense. Je pense que le Texas est un pays, est une société distincte, au même titre que le Québec est une société distincte. Mais il avait refusé de payer ses impôts, Thoreau, le gars. Et il disait, c'est justement, je ne veux pas que mon argent aille à tuer des Mexicains. Ce qui est quand même assez impressionnant comme position, mais tu le sais maintenant parce que tu vois, par exemple, dans cette époque-là, que le revenu qui venait des tarifs, par exemple, à l'importation, c'était des revenus de tarifs qui devaient aller à quelle mission? Les missions de base de l'État, c'était certains services comme la Poste et la Défense nationale. Mais là, c'était rendu de l'offense nationale, donc les gens pouvaient associer ce qu'ils payaient en plus à un résultat concret. Mmh. Alors, ça créait la capacité de certaines, au moins certaines personnes, au moins ce gars-là, de justement riposter à la chose. Donc, c'est pas mal mon take sur la déduction à la source. J'aimerais ça que ça disparaisse, franchement. Ou au moins que le petit amendement que j'ai suggéré existe.
Oui, absolument. Il y a quelqu'un qui pose une question sur les bêtes, parce que tu dois sûrement être au courant de ce projet-là qui était adopté par le gouvernement du Québec, d'élargir les consignes qu'on met. Quand vous achetez des canettes de bière ou des canettes de boissons gazeuses, il y a une consigne dessus. Donc, il faut vous ramener les canettes au lieu de les mettre dans le recyclage, ce qui était une manière d'essayer d'inciter au recyclage il y a plusieurs années. Puis là, à partir de 2022, ça va être étendu aux bouteilles de vin puis aux bouteilles de phare, je pense. Et puis là, la personne demande, c'est quoi les impacts non anticipés ou que nous autres, on pourrait anticiper d'une telle réglementation pour les commerçants, les entreprises, les consommateurs. Mais vite de même, c'est sûr que quand tu vas dans les épiceries, tu fréquentes les supermarchés, le retour de canettes, c'est toujours un peu un pain in the ass. Tu vois que les commerçants ne veulent pas gérer ça. La machine fonctionne plus ou moins. C'est toujours un peu « Ouais, je vais vous envoyer un commis. » Quand tu arrives au comptoir, pour ça, ils veulent... T'as toujours l'impression que tu déranges. Puis la personne pose la question, est-ce que ce système-là va vraiment augmenter le taux de récupération ou si finalement ça ne changera rien, puis ça va juste être une contrainte pour le consommateur et le commerçant?
Sur celle-là, je ne le sais pas. Je ne sais pas la réponse à cette question-là, mais je peux y aller avec un first principles comme économiste ici. Un déchet, c'est quand il faut que tu payes quelqu'un pour te le prendre. Right? Si ça avait de la valeur, quelqu'un te paierait pour le prendre. Right? C'est ça la ligne entre recyclage et déchets. Entre quelque chose que. Mais cette ligne-là n'est pas immobile. Et en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est que premièrement, qu'on subventionne beaucoup plus les déchets que ce qu'on réalise. Dans la plupart des villes qu'il y a.
On accueille Yann, mesdames et messieurs, qui vient de se joindre au live. Yann, puis les auditeurs, je veux juste vous avertir, il y a Vincent qu'on a perdu l'image à un moment donné. Je pense que c'est peut-être la connexion qui a un petit problème, mais c'est pas grave. Au montage, Vincent, je te mettrai une face
avec un cigare.
Un cigare, c'est important. Mais,
idéalement.
La plupart des villes ont nationalisé la collecte de déchets. Et dans ces villes-là, tu n'as pas de paiement à faire sur le volume de déchets que tu utilises. Tu n'as pas donc à payer pour la quantité que tu émets, à toute fin pratique, de déchets. Mais dans ce cas-là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu viens d'encourager la production de davantage de déchets. Donc, les consommateurs, si moi, je décide d'acheter quelque chose à l'épicerie, je consomme non seulement le bien, mais il faut aussi que je tienne en compte le coût de disposer du bien et de son emballage une fois que la chose s'est terminée. Il faut que j'ai terminé avec la consommation de ce bien-là. Mais il y a des papiers empiriques qui testent qu'est-ce qui se passe quand dans les villes quand une ville développe un système dans lequel tu privatises la collection des déchets, mais aussi que tu mets un prix au volume de déchets. Ce qu'on observe dans ces situations-là, c'est que, il y a moins de déchets qui est produit, mais il y a aussi moins d'emballage qui est demandé. Donc, les gens vont acheter davantage en gros. Ils vont demander des biens qui ont moins d'emballage autour. Donc, tu as moins de production de déchets pour commencer. Donc, au final, si les gens qui parlent de recyclage versus déchets, ma réponse, c'est ben, la nationalisation par les villes, la collecte de déchets, est à toute fin pratique une subvention sur les déchets qu'on fait.
Ouais.
Et donc, tu en produis plus. Donc, tu rends le par relatif, tu rends le recyclage moins intéressant. Si les gens devaient payer vraiment pour le prix de leurs déchets, donc le volume de déchets, tu internaliserais l'externalité, les prix s'ajusteraient. En s'ajustant, les prix ajusteraient le type de comportement entrepreneurial que les gens ont face au recyclage. Et peut-être que là, les épiciers seraient très contents, soit en produisant, en demandant des biens qu'ils vont mettre sur leurs étalages qui ont moins d'emballage, ou qui vont être prêts à accepter des biens, des choses à recycler, parce qu'après ça, ils vont pouvoir les revendre à une tierce partie, à l'entrepreneur qui va les transformer en d'autres biens. Donc, s'il y a quelqu'un à blâmer sur le recyclage, c'est pas le consommateur ou quoi que ce soit. Le gros du problème, c'est les politiques gouvernementales qui subventionnent la production de déchets. Vos lacs de déchets, les gens capotaient sur « Ah, il y a des lacs de paille dans l'océan. » Oui, et ça, c'est le résultat du fait que Los Angeles est une ville qui subventionne la collection de déchets et votre production de déchets en ne vous faisant pas payer pour le fait que vous êtes un crotté.
Mais ça tombe bien, Yann, que tu arrives, parce qu'une des prochaines questions, je trouve que ça serait intéressant que tu te donnes ton avis là-dessus. Il y a quelqu'un qui demande « Qu'est-ce qu'on pense de la culture du mâle alpha, soit comme politicien ou comme patron d'entreprise? » Mais moi, je l'élargirais un peu. Je pense pas nécessairement c'est obligé d'aller jusqu'au mâle alpha, mais une des choses, moi, qui m'a toujours écœuré, là, pour le dire simplement en politique, là, c'est la Christie de formule de il a agi en bon père de famille. Et puis là, le politicien à succès, c'est toujours quelqu'un qui a une épouse avec des enfants, une belle famille. Il faut toujours qu'il y ait des photos avec les enfants, avec l'épouse. Ah, vois-tu, on est allé marcher sur le bord de la grève à telle place, moi et ma famille. Donc, il y a vraiment cette culture-là. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'en ai un père, j'en veux pas un deuxième. Le premier ministre, c'est pas mon père, puis c'est encore moins ma mère. Je ne sais pas d'où ça vient, ça, mais à mon avis, en tout cas, je n'ai pas besoin de vous dire vraiment ce que j'en pense, mais à mon avis, c'est assez déplorable comme type
de culture. Mais le ministre de la Famille, Lacombe et Geneviève Guilbeault vont faire des belles photos ensemble. Ouais. N'inquiète-toi pas.
Moi, j'ai rien à rajouter là-dessus. C'est le genre de... Premièrement, juste le terme en soi n'a aucune valeur scientifique. C'est uniquement un truc utilisé pour démoniser un adversaire. « Ah, t'es pas un mâle alpha. Ah, oh, regarde le gars, il fait du mansplaining. » C'est le genre d'affaire qui est fait pour discréditer quelqu'un ou attaquer quelqu'un. Ceux qui utilisent ça, c'est à peu près le même niveau de consistance intellectuelle que ceux qui parlent de capitalisme, d'anticapitalisme. Il y a des mots...
Ouais, mansplaining, pour l'expliquer aux gens, Vincent, là, c'est mettons que moi, je m'adresse à une femme... Puis, je lui explique de quoi de simple sur un ton condescendant, comme si elle ne comprenait pas. C'est grosso modo. Là.
Mais moi, je fais ça avec tout le monde, tu vas dire ça, hein? Indépendamment du sexe.
C'est ça. Est-ce qu'on est surpris? T'sais?
Pas tant. Non.
Moi, c'est juste du mansplaining que je fais.
Non, c'est du mansplaining, parce qu'aussitôt qu'il y a une femme d'impliquée, il faut bien faire une dénotation, c'est important. Non, mais ces affaires, les styles de gestion, ben, ça revient un peu à ce que Vincent expliquait souvent aussi, des grands défauts qu'on a quand on analyse la politique, mais en même temps que c'est par la force des choses qu'on le fait, c'est l'homogénéisation. Là. Mm-hmm. Veux pas des styles de gestion, pour connaître beaucoup de gestionnaires d'entreprise, il y en a toutes sortes, tu sais. Il y a vraiment des excellents gestionnaires d'entreprise, il y en a des moins bons, ils ont des qualités, des défauts. Ils viennent de toutes sortes de milieux réellement différents. Il y a une chose qui est sûre, par contre, puis pourquoi peut-être que la culture du mâle alpha est un peu liée à des méthodes de gestion à l'occasion, c'est qu'on confond un peu des choses. C'est, autant les gestionnaires d'entreprise, je trouve qu'ils sont, pour la majorité, très différents l'un de l'autre, qu'il y a certaines choses dans leur façon d'être qui font que ces gens-là sont des entrepreneurs ou des gestionnaires.
Mm-hmm.
Les meilleures qualités d'un entrepreneur qui sont communes à peu près à toutes les industries, ce que je te dirais, c'est la capacité de prendre une décision rapidement et d'en assumer la responsabilité. Mm-hmm. Ça, là, c'est très, très, très commun chez un bon entrepreneur. En fait, les entrepreneurs que j'ai connus qui n'avaient pas ça, généralement, leur business avait beaucoup de difficultés à performer. Parce que les décisions ne se prennent pas vite, il y a de l'hésitation, il y a trop de consultations, il y a des lags qui se créent à cause de ça. Puis éventuellement, on n'assume pas non plus notre décision. Fait qu'on on a tendance à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre et des choses comme ça. Maintenant, si tu regardes, c'est quoi un mâle alpha comme tel? C'est très flou, là. On va s'entendre. Là. Tout le monde comprend ça, que c'est pas... tout le monde comprend que la définition d'un mâle alpha, c'est quand même quelque chose de flou. Sauf que si tu arrives et tu dis un mâle alpha peut être vu comme quelqu'un de très autoritaire ou qui donne des ordres à sa femme ou des choses comme ça, ben là, tu vas voir que ça va peut-être se recouper un peu avec la définition que je viens de donner, sans l'être. Parce qu'un bon entrepreneur n'est pas autoritaire. Et il ne sera pas quelqu'un qui va imposer des décisions aux autres. Par contre, dans l'imaginaire collectif des gens, c'est ça que les gens pensent que c'est un bon entrepreneur. Puis c'est là qu'il y a de la grosse déformation. Là. Ah. Mais ces caractéristiques-là communes, je les ai vraiment vues chez plusieurs entrepreneurs. Puis c'est malheureusement confondu avec l'autoritarisme, alors que ça n'en est pas honnêtement les meilleurs entrepreneurs.
Tu peux avoir de l'autorité sans être autoritaire. C'est ça que les gens
Exactement.
Vont comprendre. Puis la manière d'avoir de l'autorité quand tu es dans une... Parce qu'une business est une hiérarchie. Oui. Il faut... Puis ça, c'est générique au sexe, là. Ça n'a aucune distinction. Tu dois respect à tes employés. Tu les as convaincus de venir travailler pour toi en leur offrant un salaire. Soit tu les payes plus cher si tu es déplaisant. Parce que faut se souvenir que.
Non, je suis d'accord.
Mais ça revient à qu'on parlait des compensating differentials. Si tu es dans un métier déplaisant, tu es payé davantage que pour un métier plaisant, toute chose étant égale par ailleurs.
C'est pour ça que je suis gentil avec toi, Frank.
C'est ça.
Quand tu le payes pas bien, t'as intérêt à être gentil. Quand tu le payes pas bien, t'as intérêt à être gentil. Quand tu le payes bien, tu peux être un petit peu plus négligent. Mais c'est l'idée ici, c'est que toute chose étant égale par ailleurs, étant le fait important. D'ailleurs, tu remarqueras pourquoi les gens qui vont travailler dans des cabinets d'avocats quelques années travaillent à des salaires très élevés, sachant très bien que c'est physiquement demandant, c'est émotionnellement demandant, bien, c'est parce que les salaires sont beaucoup plus élevé que dans des métiers plus relax où les salaires sont plus bas, les gens font des choix alternatifs. Mais toute chose étant égale par ailleurs, ce qui donne l'autorité comme entrepreneur, ce n'est pas d'être condescendant, d'être méprisant, c'est de traiter tout ton staff également et de ne pas leur manquer de respect.
Ben, pas tout à fait égal, mais le mot n'est pas correct, Vincent, c'est plus d'une manière juste.
Tu leur dois égal respect. Ça, c'est exact. Tu devrais pas dénigrer quelqu'un parce qu'il est moins important dans ta business que quelqu'un d'autre.
Ah, puis même à ça, la notion de justice aussi est super importante parce que ce que le syndicalisme enlève au niveau de l'entreprise plus souvent qu'autrement, c'est qu'on vient niveler tout. Là. Tout le monde va avoir le même salaire selon l'échelon, l'année d'ancienneté, ainsi de suite. Puis ce qu'on perd à ce moment-là, c'est l'employé performant, on a de la difficulté à le rémunérer d'une manière supplémentaire et l'employé sous-performant, on a de la misère à le pénaliser ou à baisser sa rémunération ou du moins de ne pas l'augmenter. Et ça, un an, c'est pas grave, deux ans, c'est pas grave, mais éventuellement, après plusieurs années, tu crées beaucoup de frustration parce que un bon employé, il veut pas être traité à partie égale avec l'autre employé. Il veut pas avoir le même salaire que l'autre employé. Il veut que s'il est plus performant, il veut être plus apprécié, il veut aussi avoir une meilleure rémunération parce qu'il est plus performant. Puis c'est là que la notion de justice en entreprise devient extrêmement importante. Être équitable envers les employés, c'est pas leur donner la même paye. Être équitable envers les employés, c'est de les traiter d'une manière qui est juste en fonction de leur qualité, leurs défauts et leur performance. Puis ça, c'est là qu'on va chercher... Tu sais, un entrepreneur, généralement, c'est, oui, quelqu'un qui décide rapidement, qui prend des décisions et qui assume ses responsabilités, mais c'est aussi quelqu'un qui optimise des systèmes, que ce soit des systèmes humains, des systèmes informatiques.
C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai un collègue, Jason Brennan, j'avais plusieurs fois, je pense que je le mentionne dans le talk, parce que un, c'est un bon gars, mais c'est aussi un collègue de boisson. C'est un prof à Georgetown. Donc,
un meilleur gars.
Il va-tu avoir le droit d'aller sur ton île privée, lui?
Hein? Honnêtement, c'est un des gars qui vient sur l'île privée. Là. C'est juste parce qu'on a bien du fun ensemble. En fait, il vient présenter dans quelques semaines ici. On a prévu... J'ai demandé à ma conjointe d'avoir une soirée et son lendemain, bien sûr, avec mon collègue. Même si
steak and eggs.
Ça va être steak and eggs le lendemain, for sure. Mais à un moment donné, il m'a sorti un article que j'ai trouvé absolument fascinant. Tu regardes la portion de la masse salariale qui va au PDG des entreprises et tu regardes la valeur qu'un PDG ajoute à une firme. On a des manières de tester ça par des départs et des entrées. Et on voit que le PDG, les différences même mineures entre des PDG peut déterminer 20 à 30 % de la valeur d'une firme. Mais ils n'ont pas 20 à 30 % de la rémunération de la firme. Ils ont généralement 0 et 2 % de la rémunération de tout le payroll de la firme. Ça, c'est pas
ouais,
tout
mais c'est 400 fois plus que le travailleur, Vincent.
Oui, mais techniquement, ce que tu es en train de me dire, c'est que si j'utilisais un cadre d'analyse marxiste, donc que j'utilise la valeur travail, ben techniquement, le gars, c'est lui qui est le plus exploité. Là. Donc, le cadre d'exploitation, c'est le PDG d'une entreprise, c'est le gars qui est le plus exploité. C'est lui qui donne le plus gros de la valeur de l'entreprise. Mais c'est lui qui n'a pas la portion la plus gigantesque de la masse salariale de l'entreprise. L'explication philosophique, c'est que techniquement, si tu dois utiliser le cadre que souvent les gens utilisent, c'est que logiquement, ça échoue sur son propre mérite parce que tu es en train de dire que c'est PDG qui se fait exploiter. C'est ça, oui. C'est ça qui est ridicule. Là. C'est que c'est
ouais, mais le cadre d'analyse.
Tu dois dire des choses comme ça. C'est pour ça que je dis que ceux qui utilisent des concepts comme ah, oh, c'est ça ou c'est ci ou c'est la masculinité, c'est parce que c'est pour ça que les hommes font ça. Bullshit. C'est tous des concepts que tu ne comprends pas puis que tu n'as pas utilisé de la bonne science sociale pour analyser. Là, est-ce que c'est vrai que la plupart des PDG sont des hommes? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça? Oui. Est-ce que c'est uniquement sociologique? Probablement pas. C'est probable qu'il y ait des poids historiques qui jouent où pendant longtemps, effectivement, il y avait un statut légal inférieur pour les femmes que les hommes, puis qu'il y a un ombrage de ça qui persiste aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des attitudes de périodes précédentes où il y avait un régime légal différent qui persiste encore aujourd'hui? Peut-être. Mais la réalité, c'est quand tu as autant d'argent en jeu que dans des entreprises qui valent des dizaines et des centaines de milliards de dollars, que des actionnaires seraient prêts à se priver d'un PDG de compétences équivalentes, sinon supérieures, sur la base du genre. Tu es en train de me dire que les gens que tu accuses d'être des complotistes extrêmes qui dominent la politique sont stupides au point de laisser des dizaines de millions, de milliards de dollars de côté sur la base du genre. Mais tu réalises l'absurdité de tenir cette position et l'autre position que tu tiens en même temps. C'est pour ça que ces concepts-là, je trouve qu'ils n'ont aucune valeur de science sociale parce que le but qu'ils servent, c'est de crêper le chignon de l'autre côté. Ben oui. Puis ceux qui l'adoptent, ceux qui aiment ça l'adoptent pour un peu rire comme ceux qui oh, moi, je suis capitaliste pour comme gosser la gauche. Bien, c'est du trolling. Puis les deux, ce que c'est du troll et du contre-troll. La valeur sociale de ça, c'est la même que de lire une chronique de Patrick Lagacé, c'est-à-dire moins que zéro.
Puis, bon, rajoutons une chose. Tu sais, ce qu'on
ça,
parle
c'est
beaucoup
de ça,
c'est plus sympa.
De générosité, je suis plus capable.
Oui, bien, c'est ça. J'allais
t'en
noter quand
même. Là. C'est Patrick. T'as le droit en masse.
C'est pas cadeau.
Pas trop
longtemps, Yann, sur ta précision, parce qu'il faut passer à un autre
question. Ah, c'est vrai, on est en Q&A.
Oui, c'est ça.
Mais la game aussi, c'est que, tu sais, on dit souvent, puis là, c'est une fausseté, je vais dire, Vincent, tais-toi, là, t'es pas obligé de répliquer, je sais que c'est faux.
Tais-toi.
Ouais, mais les femmes, eux, ils gèrent de manière consensuelle. Et les hommes, non, puis blablabla, vous comprenez pas tant.
Ouais.
Une entreprise gérée de manière consensuelle, là, mettons une coop, mais vraiment, vraiment consensuelle. Ça va faire faillite. Ça va faire faillite. Tu peux pas prendre 5 jours à décider quelle couleur de trombone t'achètes, sacrément. Okay?
Ben, tu peux, mais ça s'appelle le gouvernement.
Oui, exact. Et... une entreprise gérée de manière consensuelle, ça ne fonctionne pas. Okay? Il faut que quelqu'un la prenne, la décision. L'affaire, c'est que tu as des employés techniques. Eux autres, on va comparer ça à une partie de hockey. L'employé technique, là, c'est un attaquant. Lui, tu veux qu'il soit efficace, tu veux qu'il score des buts, mais il peut faire des gaffes en défensive, puis il y a quelqu'un qui va y sauver le cul. Tu as l'employé professionnel qui est le défenseur, qui lui, il ne faut pas trop qu'il en laisse passer, il est là pour sauver le cul des attaquants, mais il peut gaffer. Puis éventuellement, le PDG, c'est le goaler. C'est la dernière ligne de défense. Puis de temps en temps, il y en a une qui va y passer entre les jambes. Il va falloir qu'il se relève, puis qu'il aille de l'avant, puis qu'il continue en bout de ligne. Mais c'est l'ultime décideur de tout ça. Puis il va se tromper des fois. Par contre, à chaque fois qu'il va se tromper, il va falloir qu'il prenne responsabilité de ce qui s'est passé, puis qu'il corrige les actions dans le futur, puis ça va arriver. Mais en bout de ligne, il faut que quelqu'un la prenne la foutue décision. Ouais, donc, quand ça remonte la hiérarchie, il faut que ça finisse. Tu ne peux pas rajouter 8 étages par-dessus la tête de quelqu'un. Il faut que quelqu'un la prenne, la décision. Ben, l'ultime décideur, c'est le PDG en haut. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que les entreprises gérées de manière consensuelle, qu'il faut qu'on arrive à un consensus pour prendre une décision, puis que là, tout le monde s'entende, puis un vote unanime, à ce prix que je veux pas travailler là. Je veux rien savoir d'aller travailler. La dernière entreprise que j'ai vue qui était un peu de même, c'était un restaurant qui était basé sur une manière de coopérative. Ils ont fait 2 déficits d'affilée, ils ont fermé l'année d'après. Puis les décideurs consensuels, ils buvaient le stock, là.
Ouais.
Dans leur réunion. Tu sais, ça faisait pas de profit.
Non, je suis pas sûr que c'est un modèle qui est bien ben viable. Y a 2 questions qui ont rapport à des trucs plus précis en économie. Je suggère, puis je sais qui les a posées, c'est Phil. Je suggère qu'on les garde pour peut-être un épisode complet là-dessus. Il pose des questions sur les différences entre les écoles de pensée. Pis etc. Donc, peut-être qu'on pourra faire plus un épisode là-dessus, parce que sinon, je sais ce qui va arriver. On va partir pendant 40 minutes, puis c'est pas ça qu'on veut qu'il arrive.
Non, je suis d'accord. La question sur les Autrichiens, là?
Ouais, exact. Puis sur je pense que ça devrait être mieux là-dessus. Il y a une autre question qui est posée par un des auditeurs. Il dit « Je suis entrepreneur et depuis un certain temps, j'ai de la misère à trouver de la main-d'œuvre de qualité. Pensez-vous que nous devrions accepter plus d'immigrants? Moi, je pense que oui. » Ça, c'était pas moi, c'est lui. Là,
je pense que je vais juste répéter ma cassette. Les immigrants ne détruisent pas des emplois, ils ajoutent des emplois, d'une part. Et non seulement ça, mais ils augmentent probablement plus la demande d'emploi parce qu'ils nous permettent de se spécialiser, nous rendant donc plus productifs par unité de travailleurs. Et au net, il y a un effet d'enrichissement de l'immigration. Donc, absolument. Maintenant, est-ce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre? Je pense pas. Je pense pas que c'est vrai qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre. J'ai déjà expliqué que je pense pas que le concept est pertinent, sauf si le gouvernement met des contrôles de prix. Une pénurie de main-d'œuvre, c'est quand au salaire donné, right, il y a des gens qui sont line-up pour ta job et tu n'es pas capable de leur offrir la job. Donc, tu as une pénurie dans ce cas-là de gens que tu peux leur offrir un emploi. Dans ce cas-ci, là, c'est pertinent, mais ça fait, par exemple, le domaine de la construction où tu as les cartes de compétences, où, dans ce cas-là, tu as des salaires super élevés dans la construction au Québec. Les gens ne soulignent pas ça, mais les salaires en construction...
OnlyFans pour la restauration. Ah non, ça, j'ai pas le droit de dire d'affaires demain.
Je vais juste passer par-dessus ton commentaire, parce que c'est ça qui mérite.
C'est bon.
Complètement perdu la traque de comment j'allais framer ça. Oui, ça. Le secteur de la construction, les salaires dans la construction sont super élevés, mais ils ne sont pas élevés parce que il y a une grosse demande d'emploi et une offre limitée. C'est qu'il y aurait une offre beaucoup plus grande s'il n'y avait pas des barrières artificielles sur les travailleurs qui viennent dans le domaine. Donc, ce qui compte vraiment ici, c'est est-ce que tu es dans un marché dans lequel tu as de la compétition pour les employeurs et les employés. Si c'est le cas, qu'un secteur soit plus petit ou qu'il perde des employés parce que les autres secteurs sont plus productifs, ils sont capables d'attirer du monde à des salaires élevés, c'est pas un problème. Techniquement, le secteur agricole, depuis 1850, a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre, parce que le secteur manufacturier, le secteur des services est tellement plus productif qu'ils attirent de plus en plus de gens dans ces secteurs-là, ce qui fait que le salaire dans le secteur d'agriculture doit constamment augmenter, mais tu as de moins en moins de gens qui travaillent parce que l'offre de travailleurs dans le secteur de l'agriculture continue de se déplacer vers la gauche, puis tu as de moins en moins de travailleurs dans ce secteur-là. C'est parfaitement normal. C'est quelque chose de comme économie 101, puis tu devrais vouloir ça.
Ben, OK, mais fine, plus... mais mettons qu'on s'entend. Mettons qu'on...
Je m'en vais sur le plus réel un peu, par contre. Je vais mettre des nuances sur ce que Vincent vient de dire, parce que là, c'est un entrepreneur qui pose la question. Fait que dans son secteur, probablement qu'il vit cette pénurie de main-d'œuvre-là. Puis je comprends toute ton affaire de transfert, Vincent. Il y a quand même présentement des freins qui sont majeurs, que ce soit les programmes sociaux qui incitent.
Ouais, c'est vrai. Excuse-moi, je vois exactement ce que tu t'en vas, puis je vais clarifier. Si tu subventionnes.
Si
tu subventionnes les gens pour rester à la maison, ben, ça va être plus dur d'attirer les travailleurs, toutes choses étant égales par ailleurs. Fait que, tu sais, la PCU, ça va dans la catégorie de choses qui pourraient créer une pénurie de main-d'œuvre, mais c'est pas à cause d'une. C'est pas l'immigration.
Non, c'est pas une cause unique. Là. C'est multifactoriel parce qu'on était en pénurie de main-d'œuvre avant la pandémie aussi, là, avant que la PCU, PCRE existe. Mais gardez une chose en tête, par contre. Ce qui arrive aussi, c'est que présentement, les programmes sociaux, il n'y a pas juste la PCU, PCRE. Puis quand on parle à des restaurateurs, par exemple, ils attaquent ce programme-là, mais il y a d'autres programmes aussi qui doivent être attaqués. Une des raisons, je pense, qu'il y avait une certaine pénurie de main-d'œuvre au sens médiatique du terme, avant la crise, c'est qu'il n'y a pas assez de restaurants qui mouraient, tout simplement, dans le sens qu'on maintenait en vie artificiellement des restaurants, puis les propriétaires se fatiguaient, puis ils arrivaient au bout de leur chaîne tranquillement, puis ça commençait à crever tranquillement, puis la raison qui était donnée, c'était pas un manque de rentabilité, c'était pas une hausse de taxes, c'était une difficulté à trouver des employés et une réticence aussi à augmenter leur salaire de ces employés-là. Ce qui fait aussi qu'on oublie, c'est que le marché s'adapte, c'est vrai, mais le marché s'adapte pas en claquant des doigts. Là. Tu sais, ça prend quand même plusieurs mois à s'adapter à un marché compétitif. Puis là, le mood qu'on est présentement, c'est qu'il y a eu peut-être 40 ou 45 moins de faillites qu'une année normale en 2020. La tendance semble se poursuivre aussi en 2021. Les entreprises ne font pas faillite présentement. Oui, il y a des fermetures sans faire faillite, mais c'est que l'argent pleut tellement dans les entreprises que n'importe quel quidam mauvais gestionnaire est capable de faire survivre son entreprise avec les programmes qui existent. Surtout que ces programmes-là sont plus généreux quand tu as une baisse d'achalandage plus élevée. Fait que c'est comme ceux-là qui reçoivent les plus grosses subventions, c'est ceux-là qui sont les moins performants pendant la pandémie. Donc, tu es vraiment dans un mode où est-ce que il manque de business qui ferme. C'est niaiseux, là, mais il devrait avoir une purification qui se fait. Parce que dites-vous une affaire, si pour une région, il y a 200 restaurants qui ferment demain matin, premièrement, ce ne sera pas les meilleurs. Ça va être les moins bons restaurants. Et immédiatement, après ces fermetures-là, il va y avoir une libération de capital humain là, qui va être redistribué dans les autres entreprises. C'est un peu ça aussi la game qui arrive.
Il y a aussi un aspect, je vais juste faire un commentaire sur les restaurants. J'avais Mathieu Bédard, qui était mon collègue à l'Institut économique de Montréal dans le temps, qui m'expliquait pourquoi il y a autant de restaurants à Montréal per capita comparativement à d'autres villes comme, par exemple, New York, ce qui est assez surprenant. C'est que tu réglementes tellement d'autres secteurs d'activité économique que l'activité entrepreneuriale se redirige largement dans ce secteur-là. Donc, tu as
parce qu'on ne peut pas ouvrir une garderie, on ouvre un restaurant.
Je dirais pas dans. Pas sûr que c'est le bon substitut, mais je comprends le concept. On va y aller sur le concept en général. Mais dans ce cas-là, l'affaire, c'est que c'est plus une pénurie de main-d'œuvre, c'est que tu as trop de main-d'œuvre. Donc, tu as trop d'entreprises qui ne sont pas de taille optimale. C'est là que c'est difficile. C'est-à-dire que tu as plus d'entreprises qui s'ouvrent. Donc, je suis sûr que si on regarde, si l'argument de Mathieu est bon, tu vas avoir une augmentation supérieure à la moyenne de l'emploi total dans le domaine de la restauration, mais une baisse dans la taille moyenne des firmes. Donc, tu as des plus petits restaurants avec moins de staff, donc moins de roulement, donc moins de capacité à servir une grande clientèle.
Plus donc, fragile quand ils perdent un employé.
Exactement. C'est là que ça s'en vient. Donc, tu as un marché où tu as artificiellement réduit la taille optimale de la firme dans un sens que c'est nocif pour l'économie en général. Mais là, ce n'est pas une pénurie de main-d'œuvre, c'est que tu as trop de gens dans ce secteur-là en général, ça, c'est important. Non, je ne suis pas sûr si j'accepte la thèse de Mathieu, parce que la contrepartie, c'est qu'on réglemente tellement la restauration à Montréal.
Oui, c'est
sûr
que je me... Ouais.
C'est ça, mais Mathieu avait cette hypothèse-là, mais si tu réglementes tellement, c'est que tu augmentes le coût par travailleur de produire une unité de biens ou services, donc le service de la restauration plus le repas en soi. Mais dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que ce que tu payes à ton travailleur, là, il faut que tu sois déterminé en fonction aussi des autres coûts. Là. Donc, tu choisis en fonction de tous les coûts qu'il faut que tu gères en même temps, la quantité d'employés que tu leur offres et donc un peu le salaire que tu peux leur offrir avant de quitter la business. Bien, dans ce cas-là, ce qui est vraiment problématique, puis je suis probablement sûr que Mathieu a tort là-dessus, c'est que les restaurants pourraient offrir des salaires nettement plus compétitifs pour attirer les gens, par exemple, si tu enlevais toutes les réglementations ridicules qui viennent avec eux. Juste le MEV, par exemple, le coût de se plier au MEV est vraiment, le module d'enregistrement des ventes, vraiment était vraiment déplaisant pour eux. Ajoute toutes les réglementations sur, bon là, je sais que...
Ben, l'alcool qui paye deux fois le prix parce qu'ils ne prennent pas la même que nous autres, il faut que tu prennes
des bouteilles. La loi qui... La loi qui interdit les serveuses de partager leurs tips avec les gens de cuisine, des choses comme ça.
Ou même des trucs de santé publique. Là, je veux dire, là, je sais que je vais aller un peu un peu en dehors de la fenêtre d'Overton, mais les gens sont capables d'évaluer si un restaurant est propre ou non. Ils n'ont pas besoin d'un inspecteur de la santé publique du bureau de Montréal qui donne des amendes sur des critères arbitraires. Les gens sont prêts des fois, je veux dire, nombre de fois que je suis sûr que j'étais déjà allé dans des restaurants qui étaient pas super propre, vous êtes allé parce que ça se voyait, mais le prix était tellement bas, puis t'es là, why not? How bad can
it be? Tu t'es dit, la pointe de pizza à 2,50, ça fait mon affaire, je vais endurer que le gars il ait soulié ça.
Oui, des fois, la file est moins longue au service à l'auto, puis tu sais que le restaurant est tout croche.
Quand les restaurants ont des mauvaises réputations, ça se promène à grandeur de la ville, tout le monde le sait. Fait, moi, je veux dire, je me souviens d'un restaurant précisément que... Ben, c'est ça, je me souviens de restaurant précisément, je ne le nommerai pas, mais il y avait toutes sortes de rumeurs relativement à ce restaurant-là, probablement non fondées, ou en tout cas en partie non fondées, puis ben ça circule encore aujourd'hui. On passe à tous les trucs, là, d'autres affaires comme mettons, là, le PFK, ils font de la sauce avec de l'huile à friture, puis en tout cas des trucs un peu bizarres, puis là ben, tu te dis, ben, en fait, ils n'ont pas besoin de se faire inspecter parce que les gens se chargent de leur faire mauvaise réputation. T'sais.
Ouais, puis peut-être, je pense qu'on a perdu Vincent un petit peu. L'idée aussi avec ça, c'est réellement qu'effectivement, on ne laisse pas aller le marché suffisamment. Mm-hmm. En réglementant énormément, puis en subventionnant énormément aussi, on permet vraiment à des mauvaises entreprises de survivre. Et ça ne libère pas les employés qui devraient être libérés. Puis ça, c'est définitivement un problème. Puis quand on parle de réglementation, présentement, la PCRE, la PCU, tu avais juste à démontrer, je pense, que tu travaillais pas puis tu avais le chèque. C'était vraiment pas compliqué à avoir. PCRE, je pense qu'ils ont tweaké les affaires un peu. Il fallait vraiment que tu démontres que tu faisais une recherche d'emploi. Je parlais à un restaurateur récemment, il me disait, écoute, Yann, je suis tellement tanné. Là. J'ai dit, tu sais, on t'en manque de main-d'œuvre, mais je reçois des CV. Ben, j'ai dit, c'est une bonne nouvelle. Il dit, non, c'est pas une bonne nouvelle. À toutes les fois, je rappelle quelqu'un sur ces CV-là, ça répond jamais. Le monde envoie des CV juste pour montrer qu'ils font des démarches. Ils disent là, je me fais enterrer de CV parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui veut un chèque puis qui doit démontrer qu'il fait une recherche d'emploi. Ouais. Ils disent pas à moi à subir ça.
Ou encore ce qu'on a vu, je me souviens plus si c'était Juge Juteux ou quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui disait, je cherche un employé puis voici le genre de réponse que j'ai souvent. Peux-tu me payer en cash parce que je veux pas perdre ma PCRE ou ma PCU?
Exactement.
Ou bien, je peux pas faire plus que 20 heures parce que sinon, ils vont me couper mon chèque. Tu sais, c'est des affaires qu'on voyait avant, me semble, juste sur des affaires d'aide sociale ou en tout cas des affaires que tu t'imagines pas, moi, en tout cas, moi, je m'imagine pas fonctionner de même.
Non, exact. Non, ça, c'est un des facteurs. Puis, l'autre facteur, c'est, tu sais, à un moment donné, augmenter le salaire des employés, ça peut marcher un temps, mais il y a plusieurs choses que tu peux faire. Moi, j'ai un propriétaire récent, ce qu'il m'expliquait, il dit, écoute, il dit, j'ai climatisé ma cuisine, c'est un investissement de 50 000, il fait toujours 23 dans ma cuisine. Tu sais, mes employés sont bien. cherche des gens à du 19, du 20, du 21 piastres à l'heure. J'ai de la misère à en trouver. Là, je commence à être tanné, mais d'un autre côté, je ne veux pas lâcher parce que j'ai jamais fait de l'argent comme j'en fais présentement. Je veux dire, je suis très, très, très rentable. Notre take-out, il roule à côté. Il regardait pour peut-être fermer sa salle à manger parce qu'il dit, écoute, juste le take-out, livraison, ça va être correct. Tant qu'à manquer de monde, je vais fermer ma salle à manger, des choses comme ça, surtout qu'on rajoutait un passeport vaccinal, des choses comme ça. Mais il dit, crime, il dit, j'ai jamais été aussi rentable et j'ai jamais eu autant le goût de sacrer tout ça là. Et il dit, ça marche pas, là. Je veux dire, c'est beau l'argent, mais il dit, travailler 45 jours en ligne, c'est pas le fun. Fait que là, ils s'ajustent. Fait qu'ils vont fermer une journée, ils vont fermer deux journées, ils vont essayer de retrouver une vie qui est un peu plus normale. Mais pour ces gens-là, ça crée énormément de problèmes. Mais en même temps, je lui ai dit de persévérer parce que j'ai dit, si présentement, c'est pas les salaires qui s'ajustent, c'est pas les profits qui s'ajustent, en fait, ce qui fait qu'une personne va carrément perdre le goût d'avoir son restaurant ou va décider de le fermer. C'est pas un manque de profitabilité, ça va être un manque d'employés, puis ça va être un manque, ça va être le fait de trop travailler de jour en ligne, c'est ça qui va le faire abandonner. Ben ceux-là qui vont persévérer, c'est eux autres qui vont ramasser la palette après, là, dans le sens que le marché va s'ajuster, les employés vont être distribués éventuellement un jour, et les quelques années que tu vas avoir après ce grand ajustement-là, vont être extrêmement profitables avec probablement des employés de meilleure qualité aussi. Tout est cyclique en économie. Ouais. Puis ça va finir par revenir du bon côté. C'est juste que quand ça se mesure en années, le temps que ça prend au marché à s'ajuster, c'est tough sur un entrepreneur puis sur une morale. Ça, c'est définitif.
Oui. Je suggère qu'on fasse peut-être deux questions rapidement, puis après ça, on passera à une partie bonus pour les gens sur Patreon. Il y a quelqu'un qui demande, ben tu sais, on voit que, Vincent ne sera peut-être pas d'accord, là, mais on voit qu'il y a une hausse des prix, en tout cas si on ne veut pas parler d'inflation nécessairement, mais il y a une hausse des prix, en tout cas dans certains secteurs. La personne demande comment organiser ses finances personnelles pour faire face à cette crise. PS, je ne veux rien savoir des crypto-monnaies. Ça tombe bien, Yann, je sais que tu n'es pas un gros fan de ça, fait que c'est sûrement pas ça que tu vas te suggérer.
Ben, attends une minute. Les crypto-monnaies, tu peux en acheter une coupe, mais tu ne devrais pas mettre une tonne d'argent là-dedans. Tu devrais juste faire comme n'importe qui. Tu diversifies le plus possible. Tu achètes plein d'actifs. Mais ce que tu veux, c'est des actifs dont le prix est flexible. Mm-hmm. Le problème des actifs qui ont un prix flexible, c'est que tu n'as pas beaucoup de liquidité. Donc, si tu veux avoir du cash on hand, c'est vraiment problématique. Mais si tu as un horizon de retraite, disons, dans 30 ans, achète des trucs que le prix peut s'ajuster, donc peut incorporer l'inflation. Donc, des actions à la bourse, ça fait ça. Des actions échangées à la bourse vont s'ajuster assez rapidement. Bon, tu vas perdre un petit peu de richesse si des fois il y a de l'inflation inattendue, mais en moyenne, les titres qui sont les moins affectés par l'inflation, c'est les titres boursiers. Fine, ils sont volatiles, mais aussi sont plus coûteux. Si tu as besoin genre de cash on hand, c'est vraiment difficile de liquider rapidement. Ton problème, s'il y a de l'inflation, c'est si tu as des prestations déterminées en termes de montant fixe,
oui.
Si tu as des rentes de retraite, si tu as des rentes perpétuelles. Donc, si t'as des...
Écoute, là-dessus, Vincent et sa coche, c'est des grands mythes. Hein? On pense que les cryptos sont un outil pour fighter l'inflation. Ça reste à démontrer. On n'est pas là du tout encore au niveau des crypto-monnaies. Beaucoup trop volatile en lien avec l'inflation. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas un edge à l'inflation présentement, les cryptos. Fait que ça, c'est un mythe. Un autre mythe, l'or. Les gens ont souvent pensé que l'or était un edge à l'inflation qui était très efficace. C'est des fois sur court terme, des choses comme ça, mais ça aussi, c'est pas quelque chose qui est si démontré que ça ou qui est si utile que ça. L'or, c'est réellement une valeur refuge.
Oui, ben c'est ça. Ben dans le temps, ça a quand même préservé une
valeur. Oui, mais c'est justement, ça préserve la valeur en fonction de l'inflation, mais je veux dire, ça t'aide pas à faire un rendement supérieur à l'inflation. Fait que ça, moi, l'or, c'est pas un actif qui me fait triper tant que ça non plus. Par contre, où est-ce que Vincent s'accroche, c'est les actions viennent réellement capturer cette inflation-là. Tu sais, dites-vous une affaire. Vous achetez on va prendre une action bien connue, là, Apple. Ben, si demain matin, le téléphone cellulaire d'Apple te coûte deux fois le prix. Il y a des chances que si tu regardes le bilan financier d'Apple, les revenus aient fait fois deux. Là, on s'entend, là, 100% d'inflation, c'est de l'hyperinflation, là, tu sais, je veux dire, ça n'arrivera pas. Là. Mais les revenus vont faire fois deux. Les dépenses vont faire fois deux aussi. Mm-hmm. Et les profits vont faire fois deux. Fait que qu'est-ce qui est censé arriver techniquement au prix de l'action? Ben, ça va faire fois deux aussi. Fait qu'effectivement, les actions sur une longue période de temps sont l'outil qui capture le mieux l'inflation. C'est ce qui fait que les gens qui ont des investissements plus à risque, c'est pas les gens qui doivent s'inquiéter le plus de l'inflation. Les gens qui doivent s'en inquiéter beaucoup, c'est les retraités du gouvernement du Québec, par exemple, avec la REGOP qui est mal indexée. C'est les personnes âgées qui ont énormément peur des marchés financiers, donc qui ont des certificats de placement garantis pour la majorité de leur investissement.
De l'argent en dessous d'un matelas. Ouais.
C'est les gens qui n'ont aucun investissement et qui ne dépendent que de leurs revenus. Donc, les gens, des fois même de un peu plus pauvres, où est-ce que l'inflation est parfois ressentie plus fortement dans des biens essentiels comme l'épicerie ou l'essence. Donc, ces gens-là, si leur salaire ne suit pas l'inflation qu'ils vivent à l'épicerie, c'est des choix déchirants qui doivent être faits dans les familles. Fait que ça, c'est les grands perdants de l'inflation, mais les grands gagnants, généralement, c'est à la fois les gouvernements qui, eux, voient leur dette en fonction du PIB venir être soulagée, et les investisseurs de stock market qui, généralement, sont quand même bien hedgés de ce côté-là.
Oui, mais tu sais, tu parlais de placement, mettons, comme dans Apple. Je plug un article que je vous ai envoyé cette semaine chez votreconseiller.net dans notre section revue de presse. Ça parlait de quelqu'un qui a mis 1 000 $ dans Berkshire Hathaway, la compagnie de Warren Buffett en 1975. Et aujourd'hui, ce 1 000 $-là, c'est 7,5 millions.
Ouais. L'intérêt composé.
Oui, c'est ça. C'est quand même assez... bref, ça revient un peu à ce que tu disais, Mané, que des fois, bon, ceux qui se sentent à l'aise de le faire, tu peux jouer à la bourse, comme on dit, mais ceux qui font rien souvent puis qui investissent de manière diversifiée et intelligente font généralement plus de revenus que ceux qui jouent... ben, parce qu'on connaît pas le futur, hein, fait que...
Bon, oui, exactement. Mais si les gens... Fait que, si on revient un peu à la question de base qui était quand même qu'est-ce que je peux faire concrètement dans ma vie de tous les jours pour m'ajuster à une inflation future?
Votre conseil financier.net.
L'affaire, c'est que ça revient toujours un peu au même. Dépense moins que ce que tu gagnes, investis, puis n'ayez pas peur de prendre des risques avec vos investissements si vous devez les décaisser sur un horizon de long terme. Et diversifier vos actifs financiers. C'est aussi simple que ça. C'est tout simple, ces affaires-là. Mais c'est aussi simple de ne pas souffrir d'obésité.
C'est plus ça.
D'exercice, puis mange moins que ce que.
C'est comme dire à quelqu'un, c'est pas compliqué, arrêter de fumer, t'as juste à arrêter.
Puis il y a 20% du monde qui fume.
Il y a aussi techniquement une manière de faire un investissement qui peut te rapporter 30% au moins par année en moyenne pour la personne moyenne. C'est-à-dire que tu ne payes pas tes impôts. mais le risque de ça, c'est que tu te retrouves en prison avec des saisies très importantes. Mais ça, je dis ça à moitié en joke, mais il y a des articles scientifiques sur l'évasion fiscale et il y a un de mes collègues qui montre le type d'évasion fiscale en fonction du revenu que les gens font. Et comment les gens qui sont plus pauvres, au lieu d'utiliser des mécanismes fiscaux, par exemple, comme acheter des œuvres d'art ou des choses comme ça, que les plus riches peuvent faire ça, les plus pauvres travaillent illégalement et les revenus cash sont gardés dans un coffre. Et fine, l'argent qui est gardé dans un coffre ou dans un matelas ou peu importe, n'accumule pas de l'intérêt, mais il faut que tu calcules la valeur nette de l'intérêt perdu moins l'impôt payé.
Elle a un heads-up start de 30%.
Ouais,
c'est ça.
C'est un calcul de risque, là, comme tu as dit tout à l'heure. Le risque de la prison, c'est le risque du savon échappé puis tout ce qui vient avec. Là, ça n'est pas si
déprimant. C'est ça. Mais il y a une implication de ça. Donc, les gens ne veulent pas en parler, mais tu ajustes le type d'évasion fiscale que les gens font en fonction du revenu. Les plus pauvres trichent autant que les plus riches. C'est juste qu'ils trichent par des mécanismes complètement différents. Les plus riches peuvent utiliser des comptables, des fiscalistes, peuvent utiliser des véhicules qui sont pas nécessairement clairs, mais pas nécessairement illégaux non plus. Donc, tu sais, ça devient où tu fais passer ton auto de l'entreprise comme ton auto, mais c'est une dépense d'entreprise. Donc là, tu sais, techniquement, tu es comme en train de te sauver une dépense personnelle, mais ça devient une dépense corpo.
Mais c'est tellement de l'enculage de mouche. Tu sais, j'ai eu à parler à plusieurs entrepreneurs qui faisaient des affaires de même. Puis ma conclusion que je leur disais tout le temps, c'était arrête donc de faire des conneries comme ça. Je veux dire, pour ce que tu sauves vraiment, ça vaut pas la peine. Puis surtout que le fisc est de plus en plus efficace. Je veux dire, c'est pas des mythes que je vais vous raconter là, mais quand il y a des fonctionnaires, les fonctionnaires sont très bien gros sur le camping, là. Faut le préjuger. Quand il y a des fonctionnaires qui se promènent l'intérêt de camping puis qui voient des gros pick-up plaqués F, là, pensez-vous vraiment qu'ils ne prennent pas le numéro de plaque en ordre, surtout si vous buvez de la bière le soir puis vous parlez fort?
Une raison de plus de jamais faire du camping. Aucun être humain qui se respecte dort sur un lit qui n'a pas quatre jambes et un sommier, OK? Là, on va venir,
là. Ouais, mais en camping, Vincent, tu peux te faire un bon steak and egg le lendemain matin, là, sur le feu, puis tout, là.
Je peux le faire aussi dans ma cuisine, OK? Dans le side de compte. Non seulement ça, mais je peux le faire en étant propre le matin après avoir pris une douche qui n'est pas de l'eau froide. Okay? L'exercice de la civilisation humaine, c'est de ne plus faire du café, OK? C'est ça, l'idée. OK? Fait que l'idée du camping, là, tu veux juste m'ajouter une raison de ne pas faire du camping. Mais si les gens trichent à des proportions égales en fonction de leur, en proportion de leurs revenus, peu importe où est-ce qu'ils sont dans l'échelle des revenus, ça te montre à quel point l'effet net de l'impôt est probablement sur la redistribution, selon moi. C'est pour ça que les gens qui disent ça, c'est un super effet de nivellement. Oui, un effet de nivellement dans ce que tu peux mesurer. Mais dans l'actuel, il n'y a probablement pas beaucoup de nivellement qui se fait. Tout ce qui se passe, c'est que tu forces les gens à dépenser des ressources, justement comme ton gars qui déplace son auto, comme son auto d'entreprise, etc. Ce que tu fais, c'est que tu te retrouves à dépenser un paquet de ressources qui auraient pu être dépensées sur des investissements qui sont en fait vraiment productifs.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, c'est un peu comme si tu faisais dépenser de l'argent pour juste faire du shuffling around. Ça, c'est... Ouais. J'ai fait mon commentaire sur l'inutilité d'écœurer les gens.
Là-dessus, je suggère qu'on passe à la partie pour les membres de Patreon.